Bienvenue à La Plume et l'Épée, le balado littéraire des médiévales de Lanaudière. Un gros merci à notre commanditaire principal, la cervoise Alésia. Alésia, c'est le résultat de 10 ans de recherche pour préparer une cervoise qui ressemble le plus possible à ce qu'on buvait en Gaule il y a 2000 ans. Épisode 3, Révélation, par Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau.
Le garou leva sa patte griffue, prête à frapper Moral. Médéric et un autre guerrier jaillirent des ombres et attaquèrent la bête. La créature tomba dans un gémissement terrifiant, avant de sembler reprendre des forces et d'attaquer de plus belle.
Morag!
Son cœur, sur le point de sortir de sa poitrine, la demi-elfe s'éloigna de Médéric, partit à la recherche de celui qui l'avait appelé. Qui était-ce? Kiran? C'est lui qu'elle trouva, aux prises au corps à corps avec un garou. Irine l'attaquait avec ses dagues, mais le monstre ne bronchait pas.
Utilise ton sort d'empathie animale. Dis la formule, explique les effets et avance-toi vers le garou.
Quoi?
Télindar lança un projectile lumineux vers la bête.
Un, magique!
Le garou gémit.
Dis la formule, Morag. Je te couvre!
Tremblante, Morag sortit le carnet dans lequel elle avait noté ses quelques sorts et leurs formules. Elle ne les avait encore jamais utilisés et ne savait même pas quel était l'effet du sort d'empathie animale que lui recommandait l'elfe. La formule. Formule là.
Naturum amicale animalo charmadoe.
Une seconde s'écoula.
Ça fonctionne pas, il attaque encore.
Dis check et explique l'effet du sort.
Quoi? Tchak.
Tous les joueurs ayant entendu le cri s'immobilisèrent, l'oreille tendue. Le garou se tourna vers Morag.
Tu... Empathie animale. Tu ne veux pas me faire de mal. Tu obéis à mes ordres et tu es prêt à me défendre si je suis en danger.
Durée?
10 minutes. Résistance au charme, c'est ça?
Des chocs. Avance vers eux maintenant.
Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Prunelle.
Alors, Marie-Jeanne, tu es née à Gatineau en 1989. Tu es une maman à temps plein et une auteure. Et Révélation, c'est ton premier roman, donc on a fait une petite exception avec toi plutôt que de t'inviter pour parler de ton plus récent roman. On a décidé de commencer par le début, ce qui est un peu ta naissance d'auteur. Tu l'as publié en 2017, mais après ça, tu n'as pas chômé. Tu en as publié 3 autres et là, tu travailles sur un nouveau livre. Donc, c'est presque un livre par année, en fait, là,
Mon ratio,
ouais, exact.
Oui.
Est-ce que tu es comme tombée dans la potion magique des écrivaines quand tu étais petite? D'où te vient toute cette énergie d'écrire?
En fait, c'est que Révélation est mon premier roman publié de manière indépendante, mais avant ça, j'avais déjà publié La guerre des Tinouis, tome 1, avec une maison d'édition agréée. Puis j'ai mis fin au contrat en 2012, j'ai repris les droits de ce livre-là, puis je l'ai mis dans mes tiroirs, puis j'ai arrêté d'écrire le projet en tant que tel avant qu'il soit terminé parce que c'était rendu trop difficile, parce que ça s'est mal terminé avec cette maison d'édition-là.
Okay.
Puis Révélation, c'est vraiment venu comme le projet de rédemption, donc mon retour à l'écriture, c'est vraiment un projet sur lequel... J'ai dormi longtemps, puis il m'habitait vraiment. Donc, je me suis lancée dans l'écriture. En 4 mois, il est sorti. Et 4 mois, c'est mon record à ce jour. Je ne suis pas aussi prolifique que j'en ai l'air parce que, après Révélation, je me suis rendu compte que mon premier livre, La guerre des Tinouis, tome 1, il y avait des gens qui l'attendaient encore, qui attendaient encore la suite de ce livre-là qui n'était jamais sorti. Donc, j'ai repris le projet. Donc, il était déjà écrit, je l'ai juste retravaillé. Republié. Après ça, j'ai fait la même chose pour le tome 2 en le réécrivant beaucoup plus en profondeur, en me donnant la permission en fait de l'explorer plus profondément que le tome 1 qui avait déjà été lu, donc je voulais pas trop le modifier. Donc concrètement, j'ai écrit 2,5 livres en l'espace de 3 heures. Donc c'est plus décent,
Oui, mais quand même, c'est impressionnant. Est-ce que tu as une discipline dans ton écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, bon, je vais faire chaque jour, je vais mettre 2, 3 heures, ou ça vient plutôt par vague, que là, des fois, tu es inspiré, tu es motivé, tu as l'énergie, tu fais un gros coup, puis après ça retombe. C'est quoi un peu ta démarche pour écrire?
J'aimerais avoir de la discipline, je n'en ai pas.
Je suis pareil, je comprends.
On va dire ça comme ça. Navamgarde 1, je l'ai écrit tous les jours, tous les matins, je m'installais, j'écrivais, je relisais le chapitre que j'avais écrit la veille, puis j'écrivais la suite. J'écris toujours en ordre chronologique, ça c'est quelque chose qui ne change pas dans peu importe mes projets. Okay. Je ne peux pas écrire le chapitre 27 avant d'avoir écrit le chapitre 16.
Mais tu sais déjà, dans ta tête, tu sais ce qui s'en vient. Tu les écris dans l'ordre chronologique, mais tu connais déjà ta destination.
J'ai une bonne idée de la destination. Je n'ai pas toujours l'idée finale qui finit sur le papier. Pour Navamgarde, je n'avais pas le choix de faire des plans parce que justement, c'est plein de trames qui s'entremêlent. Mm-hmm. Alors que dans les Teen Way, j'essaye de faire des plans et ça finit toujours par être ce que je n'écris pas. Donc, j'ai plein de versions de plans qui sont finalement ce que je n'ai pas écrit parce que ça change au fur et à mesure.
Ah, c'est intéressant. Donc, tu as comme une espèce de... Il y a une petite portion de presque de destin, un peu. Là, tu sais, t'as ta volonté, mais c'est pas juste ta volonté qui détermine où est-ce que ça s'en va.
Il y a vraiment les personnages.
Il y a une force extérieure.
C'est les personnages en tant que tels. Ouais. Il y a plusieurs auteurs qui disent ça en tant que tels, qui sont guidés par leurs personnages, puis j'y crois d'une certaine manière parce qu'il y a des passages où j'écris, puis ce que je veux faire ne fonctionne pas, puis je finis par retourner à l'arrière puis à changer ce que le personnage faisait parce que il ne menait pas là où je voulais aller. Donc, on change de direction, on suit ce que le personnage y a l'air de vouloir faire, puis on vit avec.
Mm-hmm, pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça aussi.
Oui.
Tu as un baccalauréat en théâtre. Quand tu as fait ton bac, est-ce que tu savais déjà que tu voulais te diriger vers l'écriture, être auteur, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé plus tard?
Non, j'ai toujours su que je voulais écrire. Puis la raison pour laquelle je ne suis pas allée en littérature, c'est que je ne voulais pas qu'on m'apprenne à écrire.
Okay.
J'ai toujours voulu explorer moi-même l'écriture, donc le faire à ma manière, apprendre sur le tas, c'est quelque chose dans lequel je suis bien. Ça mm-hmm. s'applique autant à l'écriture qu'à l'édition indépendante. J'apprends de mes erreurs, puis j'aime ça grandir. Et je n'aime pas quand on me dit « ce que tu fais en ce moment ne fonctionne pas, tu devrais le faire de telle manière ». Je préfère le comprendre moi-même, quitte à vivre un échec, plutôt que de me le faire dire. Donc, je vais aller chercher des références, des ressources, je vais aller apprendre par moi-même, je vais consulter des cours en ligne, mais sans jamais me mettre la pression de faire « OK, je vais appliquer les exercices, je vais faire exactement ce qu'ils me disent. » C'est « OK, cette personne-là fonctionne de telle manière, cette personne-là, c'est ce qu'elle fait. Moi, est-ce que ça me correspond? Oui, non. Comment je peux l'adapter à moi? » C'est comme ça que j'ai vraiment développé mon écriture. Puis le théâtre, ça a toujours été ma deuxième option, mon option de « j'aimerais ça enseigner le théâtre aux jeunes du secondaire, monter des pièces de théâtre et tout ça. » C'est vraiment c'est ce qui m'attirait dans le théâtre. Puis c'est ultimement pour ça que j'ai fait mon bac là-dedans.
Puis j'imagine que ça doit quand même t'aider d'une façon peut-être moins directe, mais t'aider quand même dans l'écriture. Il y a des liens entre le théâtre et la littérature, non?
Oui, mais oui et non, parce que le bac que moi j'ai fait, c'était un bac à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est pas un bac spécialisé dans le jeu ou dans l'écriture, c'était un bac théâtre. Okay. Donc, on a fait autant de la théorie que du jeu, que de la voix, que de la mise en scène, que des costumes. Donc, je peux tirer des liens quand j'écris, mais c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui est vraiment dans mes pensées quand je fais « OK, ça ajouterait à la scène ». Non, ce qui ajoute à la scène, c'est si moi, je suis dedans pour l'écrire. Ouais. Mais j'écris tous mes dialogues à haute voix. Donc, peut-être que c'est le théâtre en moi qui me fait faire ça.
OK, mais t'es vraiment plus dans une approche comme autodidacte, dans le fond, à l'écriture.
Oui.
Est-ce que c'est une approche qui te qui te définit dans d'autres aspects de ta vie, j'imagine. Tu dois avoir une personnalité fortement autodidacte ou c'est simple, c'est uniquement pour
l'écriture? Non, c'est vraiment par rapport à l'écriture. En fait, c'est vraiment par rapport à mes passions. Quand c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais aller chercher moi-même le nécessaire pour l'apprendre. Mais si c'est quelque chose où je ressens moins de connexion, ça me dérange pas que quelqu'un me le montre.
C'est comme moins personnel pour toi
à ce moment-là. Oui, oui, oui. J'ai pas de problème à ce qu'on m'enseigne, mais quand c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'anime, je préfère l'apprendre puis l'expérimenter.
Ah, c'est intéressant. Puis tu aimerais bien un jour vivre uniquement de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible au Québec? On entend souvent parler que, tu sais, c'est dur être auteur. Y a, sur chaque livre vendu, il n'y a pas beaucoup de sous qui reviennent à l'auteur. Est-ce qu'il faut comme être super prolifique puis publier des tonnes de livres? Comment est-ce qu'on gagne sa vie comme auteur au Québec?
C'est vraiment une grosse question. Moi, en tant qu'auteur indépendante, il faudrait un miracle pour que je gagne ma vie à partir de ça. J'ai pas trouvé la recette magique pour y arriver. Puis vraiment, je le fais pas pour gagner ma vie. Oui, c'est sûr que c'est un rêve, mais concrètement, d'y arriver, c'est pas quelque chose à laquelle je travaille activement. Je veux écrire, je veux me faire lire. Puis c'est ça qui me pousse à avancer. Le milieu du livre est difficile, que qu'on soit indépendant ou qu'on soit agréé ou qu'on soit auto-édité. Puis chaque vente est une petite victoire. Puis je veux me concentrer sur ça plus que sur le fait de « bon, ben il faut que je regarde le portefeuille, il faut que je réussisse à vendre tant pour réussir à gagner quelque chose. » Pour l'instant, je suis dans le rouge, puis j'assume. Ou du moins, j'essaye d'assumer. Des fois, c'est plus dur.
C'est stressant, des fois, j'imagine. Là, tu as mentionné plusieurs choses. Tu as parlé d'auteur indépendante. Tu l'as mentionné à quelques reprises. Tu as parlé d'auteur agréé. Puis, tu as parlé d'auteur auto-édité. C'est ça? Peux-tu nous dire un peu c'est quoi la différence? Puis, toi, t'es indépendante. Puis, pourquoi?
OK. Auteur agréé, c'est un auteur qui est publié dans une maison d'édition agréée, donc une maison d'édition officielle. Il signe un contrat et c'est l'éditeur qui prend en charge tous les risques et tous les frais associés à la publication. L'auteur reçoit alors entre 10 à 12 % du prix du livre vendu. Donc, sur 30 $, l'auteur reçoit normalement environ 3 $ par livre.
OK. Mais l'auteur n'a pas à faire plein de
publicités. Il n'y a pas à dépenser quoi que ce soit.
OK. C'est toute la maison d'édition qui s'occupe de la vente.
Oui. OK. Oui. Complètement. De la vente, de la publication, des frais d'impression, des frais de correction. L'auteur ne doit rien assumer dans ce milieu-là. Si il y a une maison d'édition agréée qui vous demande de l'argent, ce n'est pas une maison d'édition c'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Et donc, là, c'est une partie des frais est dépensée par l'auteur, mais c'est la maison d'édition qui supervise le projet. Après ça, on passe dans la dernière catégorie, qui est la catégorie auto-édition / édition indépendante. Pourquoi édition indépendante? Moi, j'utilise ce terme pour me distinguer de l'auto-édition classique qui a normalement mauvaise réputation. En tant que telle, ce que ça fait, c'est l'auto-édition, à la base, c'était les gens qui prenaient leur texte, le corrigeaient eux-mêmes, le montaient eux-mêmes et l'imprimaient eux-mêmes. Donc, auto-édition, tu te publies toi-même.
C'est fait maison.
C'est fait 100% maison et il y a des perles là-dedans. Il y a des personnes qui sont géniales, qui peuvent porter tous les chapeaux et réussir à faire un produit super. Je ne suis pas de ces personnes. Je suis une auteure indépendante. Je sais où sont mes limites et donc j'engage moi-même, à mes frais, des professionnels pour faire les différentes étapes du livre. Donc, j'engage une correctrice, si je peux, deux correctrices, un imprimeur, un infographiste, et je joue le rôle d'auteur qui a écrit le livre et d'éditeur qui supervise le projet et qui dépense les frais associés. Donc, c'est pour ça, c'est la distinction que moi, je me plais à faire en tant qu'auteur indépendante, c'est vraiment de dire: ce que je vous offre n'est pas d'une maison d'édition, mais c'est quand même un produit qui se veut le résultat d'une, d'un projet professionnel.
Le même standard de qualité que une maison d'édition.
J'essaye.
Oui.
J'essaye. Comme je dis, j'apprends sur le tas. Donc, il y a des coquilles, puis ben je dois vivre avec. Puis je ne peux pas me payer 2 ou 3 corrections, contrairement à des maisons d'édition bien établies. Donc, ben quand je le peux, je fais une mise à jour du document, puis c'est ce qu'on vit avec.
Puis j'ai cru comprendre d'un commentaire que tu as fait un peu plus tôt que c'est un désir d'un peu plus de liberté qui t'a mené à cette décision-là d'être indépendant.
Oui. Ben c'est vraiment... Je suis un mélange des deux cas de figure qui se tournent vers l'auto-édition. Il y a une partie de moi qui était très attirée par le fait de gérer moi-même mes propres projets. C'est quelque chose que j'ai en moi, cette espèce de fibre de « bon, ben je veux apprendre à le faire et le faire moi-même parce que justement, ça me passionne. » Et l'autre, c'est par dépit, parce que après avoir été publiée avec une maison agréée puis que ça a mal tourné, j'ai essayé de retrouver des maisons d'édition qui étaient intéressées par La Guerre des Teenways. Ça ne se trouve pas. Une fois qu'un premier tome est sorti, c'est extrêmement difficile de faire publier la suite ou de faire reprendre la série. Il n'y a personne qui veut plus toucher à ce genre de projet. Et pour Navamgarde, je l'ai soumis à certaines maisons d'édition triées sur le volet vraiment spécifique. Et ce qu'elles m'ont toutes répondu, c'est un excellent livre, mais le sujet des GN ne sera jamais vendable et donc on ne peut pas s'engager là-dedans. Alors, puis il y en a même une qui m'a dit, mais si vous écrivez quelque chose de réaliste ou dans un autre sujet, envoyez-le nous, on est vraiment intéressés.
Hey, mais c'est drôle.
C'est pas ce que j'écris.
Non, mais en même temps, ce que tu écris, c'est réaliste. C'est des vraies personnes.
Mais les GN, ça se vend pas.
Ben oui,
les
c'est GN, drôle hein, qu'elle dise que ça soit pas réaliste parce que c'est donc beaucoup plus réaliste que. Tu sais, tu prends une œuvre de fantasy qui est pas réaliste du tout, elle se vend très bien.
Oui.
Alors que dans ton cas, tu vas combiner la fantasy avec le réalisme. Donc, on peut pas te reprocher d'être pas réaliste. Tu l'es encore plus. C'est étrange, hein? C'est étrange.
Mais c'est vraiment cet aspect de marginalisation du GN qui m'a convaincue, et mon copain a eu un grand rôle là-dedans, de me dire, ben vas-y, on essaye de le faire, lance-toi. Ça, plus la réaction des maisons d'édition qui me disaient, le livre est bon, mais les GN, ça vend pas, plus mon intérêt pour l'édition indépendante, ben, tout ça m'a mené à faire, bon, ben let's go, on le fait.
Ben justement, parlons-en de révélations que j'ai beaucoup aimées. Je connaissais pas ton œuvre, donc j'étais bien contente de commencer avec ce premier livre de la série Les Chroniques de Navamgarde. Et une chose que j'ai beaucoup aimée de révélation, c'est la touche d'humour que tu as été capable d'insuffler à tes personnages. C'est vraiment le fun de lire une œuvre qui appartient. Mais en fait, ton œuvre est assez, elle est hybride, là, comme je venais juste de le dire. C'est un volet très roman réaliste, puis tu as un volet qui s'apparente un petit peu plus à la littérature de l'imaginaire, mais en fait, je vends pas des punchs là parce qu'on l'apprend très rapidement dans le livre. Mais en fait, ce qui se passe dans cet ouvrage là, c'est que on a deux histoires en parallèle, hein, bien sûr. On a d'un côté les personnages dans leur quotidien à Montréal, puis on a d'un autre côté les personnages avec leur alter ego, avec le personnage qui joue dans un GM qui s'appelle Les Terres de Navamgarde. Donc c'est pas vraiment de la fantasy ce que tu écris, c'est du roman.
Non, c'est pas du tout de la fantasy.
Ouais, c'est carrément du roman. Puis tu l'as fait avec une touche de légèreté vraiment, vraiment intéressante. On se prend pas trop au sérieux là, dans tout ça. Puis il y a un extrait, là, un passage que j'ai particulièrement aimé, qui m'a beaucoup fait sourire, c'est au chapitre 10. Donc, ce chapitre-là se déroule aux terres de Navamgarde, donc au GN. Puis là, nos aventuriers rencontrent quelqu'un qui pourrait les aider dans leur quête, mais encore faut-il qu'ils soient capables de leur parler. Donc, on va aller écouter ce petit extrait.
Devant nous se dressait le dolmen. Il avait tout des constructions préhistoriques connues, à l'exception qu'il s'agissait d'un résultat d'un éboulement naturel et qu'il était nettement moins impressionnant que ce à quoi je m'étais attendu. Je contemplais le tas de pierres qui s'élevait à 1 mètre du sol à peine. Dolmen, vraiment, je l'aurais appelé tabouret, tout au plus.
Alors, on est censé faire quoi maintenant?
Galim sort le parchemin trouvé après l'attaque.
Trouvez le symbole suivant.
Alors que tous mémorisaient le dessin à la lueur vacillante des lanternes, Logan tenta d'arracher le papier des mains du nain qui esquiva.
On regarde, on ne touche pas.
Hey, relax, Galim, là. Je voulais juste voir de plus près.
J'aurais pu demander, Logan.
Ben oui, ben oui. Mais je suis Logan le Grand et Logan le Grand ne demande pas la permission.
Avec moi, vous la demandez. Allons, compagnon, trouvons ce symbole.
Tous s'éparpillèrent autour du dolmen tabouret, observant les troncs d'arbres, les rochers et tout ce sur quoi le signe pouvait avoir été placé. Logan, insulté par le ton cinglant du nain, s'était assis au pied d'un arbre. Il triturait sa clé mort de mousse en fixant Morrague qui, elle, faisait tout pour éviter son regard. Je devais trouver ce symbole au plus vite. Il fallait que nous passions à autre chose, que cette aventure prenne fin et que Morrague puisse oublier Logan à nouveau. Le jeu n'en était pas un s'il n'y avait plus de plaisir. Tant que le barbare serait des nôtres, ni Morrague ni moi ne parviendrions à nous amuser. J'analysais la clairière. Le buisson qui trônait sur le tabouret frémit. Je m'immobilisais. Il n'y avait aucune brise. Je fis alors signe à la druidesse demi-elfe qui s'approcha.
T'as trouvé quelque chose?
Je lui indiquai la masse vacillante en pointant son bâton. Elle donna un léger coup incertain.
Yeah!
Alors que tous se mettaient en position de combat, le buisson s'étira et apparut alors un homme assis sur le minuscule dolmen, un bouquet de fougères lui faisant une carapace pareille à celle d'une tortue. Et sur son torse, sous sa broussailleuse barbe blanche, il arborait le symbole du parchemin de Galilée.
Non, mais les jeunes, plus aucun respect pour les vieillards.
Pardonnez-nous, noble messire, mais nous...
Quoi? Parlez plus fort, je ne vous entends pas!
Je disais que nous étions désolés de vous déranger et que...
Des orangers? Il n'y a pas d'orangers ici, il fait trop froid!
OK, c'est bon, on a compris, là. Il est sourd, génial. On le bute, alors?
Logan agita sa clé mort comme une batte de baseball. Nous avons besoin des informations dont il est vraisemblablement gardien. On peut pas juste le buter.
Ben oui, on peut. On posera les questions après, avec de la magie ou je sais pas quoi, comme dans un film.
On reste dans le jeu, s'il vous plaît.
Ouais, correct. Alors... Hey, le vieux, tu nous prends pour quoi? Dis-nous ce que tu sais, puis plus vite que ça.
Dépuis-toi! Ah, s'il y en a, j'espère que vous courez vite!
Logan allait renchérir quand Morrague, visiblement exaspéré, impossible de dire si c'était par le dialogue de sourds ou par l'attitude insupportable de Logan le Grand, grimpa sur le dolmen pour s'agenouiller aux côtés du vieillard, sa bouche effleurant presque ses impressionnants poils dorés.
Noble ermite! Nous nous excusons de vous éveiller ainsi à une heure aussi tardive, mais le temps presse. Et
le temps presse? Mais alors parlez, douce damoiselle, parlez!
Fait comme je le disais, une chose qui m'a beaucoup impressionnée de ton livre, c'est ta capacité de faire évoluer, bon oui, le côté humoristique, mais aussi ta capacité de faire évoluer deux histoires en parallèle. Donc, l'histoire, appelons-le entre guillemets, dans la vraie vie là, à Montréal, des personnages.
Le quotidien.
Le quotidien, c'est ça, le quotidien. Oui. Puis leur histoire en avant-garde. Puis, c'était tellement fait de façon habile que j'ai même embarqué dans l'intrigue du GN, même une fois que je savais que c'était un GN, puis que c'était comme c'était un jeu, puis il n'y a personne, tu sais, il n'y a pas d'univers qui allait se détruire ou qui allait exploser, puis il n'y a personne qui allait mourir.
Mais il n'y a pas de portail, il n'y a pas de créature.
Non, c'est ça. Il y a des costumes, tu sais, puis tout ça. Mais j'avais comme vraiment envie de savoir ce qui allait se passer avec la voix sans nom, puis tout ça. D'ailleurs, j'ai bien hâte de lire le deuxième tome, là, maintenant que j'ai lu le premier.
Oui.
Puis je me demandais le scénario que tu as créé pour les personnages du GN dans ton livre, qui est vraiment étoffé puis développé, est-ce que tu l'as créé de toutes pièces pour ce livre-là? Ou est-ce que c'est un scénario que tu as déjà en partie joué dans un vrai GN? Tu sais, elle vient d'où l'histoire de Navamgarde?
L'histoire de Navamgarde, pour la concevoir, j'ai fait beaucoup de recherches. Ultimement, ce que je voulais faire avec Révélation, c'était présenter le loisir du GN,
ouais,
des jeux de rôle grandeur nature, puis offrir un livre qui permettrait à n'importe qui s'intéresse au GN de lire le livre puis de faire ses seuls loisirs. Donc, l'histoire du GN est inspirée de plein de choses. Autant de choses que j'ai vécues, autant d'un système idéalisé que j'aimerais voir naître un jour dans un GN, mais qui en même temps, je ne sais pas à quel point il peut réellement exister dans un GN, mais c'est un fantasme de GN en tant que tel. Puis la trame de l'histoire, il y a des éléments qui justement sont rêvés, sont mon GN idéal à moi en tant que GNiste. Puis mon conjoint a fait beaucoup de GN aussi et il y a beaucoup d'éléments de ce que lui a vécu, puis d'éléments de ce que d'autres personnes autour de moi, d'autres GNistes dans d'autres événements, ont vécu aussi, qui ont influencé la trame de ce récit-là, les petits événements, comme par exemple le parcours avec les clochettes, c'est quelque chose que mon conjoint a vécu dans un GN, que j'ai repris à ma sauce, puis adapté pour montrer, en tant que tel, quand j'ai fait des GN, je n'ai jamais vu ça. Mais lui l'a vu, puis j'ai fait « ça sonne le fun ». Ça sonne comme quelque chose qui, moi, m'intéresserait en tant que joueur. Donc, je l'ai mis dans le livre.
Puis là, on parle du livre, t'sais, nous deux, on le connaît, mais là, les gens qui nous écoutent ne le connaissent peut-être pas encore. Fait que dans le fond, t'sais, si on résume un petit peu, là, tu sais, tu l'as dit toi-même, ton objectif, puis je l'ai deviné parce qu'en le lisant, on le voit bien que ton objectif, c'est de présenter le GN au lecteur. Puis ça a vraiment bien marché avec moi parce que, comme je te disais, moi, je connais ça, le GN, mais personnellement, j'en ai jamais joué. Puis j'ai été, malgré tout, très captivée par ce que tu écrivais, puis ça l'a vraiment piqué ma curiosité. Bon, non, c'est pas vrai. Ma curiosité était déjà piquée pour le GN, mais là, j'ai comme encore plus envie de l'essayer. Mais si on résume un petit peu, en fait, c'est qu'on a différentes personnes donc on suit dans leur quotidien, qui jouent au GN après. Puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un des grands thèmes de ton livre, c'est l'espèce de, comment dire, d'acceptation pour ce nouveau loisir, pour ce nouveau passe-temps. Parce que tu as quand même certains personnages qui, c'est leur première fois. T'as plusieurs personnages, en fait. C'est leur première fois.
Oui, en fait, c'est le thème de révélation. Ouais. Le titre révélation a plein de double sens.
Aha.
Parce que ces révélations, tant dans la trame de Navamgard, c'est le sujet de la grande quête qui s'étire à Navamgard, mais aussi c'est la révélation de ce que sont les GN pour les personnages de Jen et de Chloé.
En particulier,
parce que
ces deux
filles-là n'ont jamais fait de GN. Et c'est la première fois qu'elles vont le découvrir et elles le découvrent de manière totalement différente au premier abord parce que elles arrivent là avec des backgrounds différents, elles viennent de différents milieux, elles ont différentes attentes par rapport au GN. Puis c'est ce que je voulais explorer concrètement, c'est de voir qu'est-ce que c'est le GN, qu'est-ce que ça peut apporter de faire du GN à certaines personnes, puis est-ce que c'est un loisir qui, toi, lecteur, peut te plaire ou pas. Ma correctrice, en lisant le livre, elle a dit « ça a l'air vraiment, vraiment intéressant comme loisir, mais je sais que moi, personnellement, je n'en ferai jamais parce que dès qu'il y a des costumes sur moi ou sur d'autres, je suis mal à l'aise.
»
Donc, elle, le principe d'incarner un personnage, elle n'est pas capable, mais au moins, quand elle a lu le livre, elle a compris pourquoi d'autres, ça pouvait les intéresser. Donc, c'est vrai, ça, c'est vraiment un des thèmes de Navamgard, c'est la révélation de qui sont les personnes qui font du GN. Et ultimement, c'est tout le monde peut en faire,
oui,
pour peu que ça les intéresse.
C'est ça, c'est très diversifié. Et puis d'ailleurs, tu en parles à quelques reprises, on a des fois une image un peu stéréotypée du joueur de GN, disons, cliché. Mais on le voit dans tes personnages, puis on le voit dans les autres gens qui vont rentrer au GN, que dans le fond, c'est super varié. Tu parlais de Jen et Chloé tout à l'heure. Moi, j'ai eu beaucoup de sympathie pour le personnage de Jen, en particulier à cause de la relation un peu merdique, là, disons-le, dans laquelle elle se trouve.
Carrément de la merde.
C'est ça. Ça m'a rappelé quelques souvenirs de mon passé. Je me suis dit, oh, pelay, j'ai grandi, une chance que j'ai plus des relations comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que Jen, qui est dans sa vie quotidienne, est une étudiante, elle travaille fort sur ses études, sur sa job, sur son appart, elle travaille fort sur son couple, mais comme un peu la seule des deux, elle travaille fort là-dessus.
Oui.
Puis à travers tout ça, ben, elle va découvrir le GN, comme tu le disais. Elle va jouer son alter ego, c'est Morag, la demi-elfe, et éventuellement, elle va participer à son premier combat. Puis là, elle a un petit peu peur. Puis elle se dit, elle se fait la réflexion que ouais, Jen de Montréal, là, elle se serait sans doute cachée. Mais là, après, elle dit, puis là, je vais citer juste une courte phrase du livre.
Oui.
Elle dit, mais elle n'était pas Jen, elle était Morag. Et Morag était capable d'affronter ce que la vie mettait sur sa route. Est-ce que de ton expérience en GN, le GN permet d'affronter ses peurs d'une certaine façon? C'est ça qui se passe
Moi, j'ai la conviction intime que peut-être pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont aller au GN, puis ça va être un jeu, puis ça va être une belle expérience, puis ça va s'arrêter là. Mais pour d'autres, je crois que le GN, c'est une manière de se découvrir et parfois même de surmonter certaines peurs, certaines angoisses. Ça peut permettre de mieux comprendre qui on est parce que le temps d'un instant, on est quelqu'un d'autre. On se donne le droit d'être quelqu'un d'autre puis de faire « Hey, mais cette autre personne, c'est aussi un peu moi, donc je peux être comme ça, je peux me permettre de, ben oui, je de ne pas être dans mon coin, de ne pas faire « Ah, oh, j'aime pas cette situation-là, je vais m'en sortir » puis juste l'ignorer. Non, Jen, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle peut faire face. Puis, même si, par la suite, quelqu'un réussit à faire face dans un GN puis que ça n'a pas d'influence sur sa vie, il y a quand même eu ce moment-là. Puis, même s'il ne s'en rend pas compte, ça peut l'avoir changé. Puis je crois à ces moments-là dans le GN. C'est une des beautés du GN.
Oui, ça nous ouvre des... Il y a des limites qu'on se met peut-être dans la société, tu sais, qui sont un peu dues peut-être à la pression sociale, à ce qu'on attend de nous, tout ça. Puis après ça, lorsqu'on est dans un environnement de jeu, un environnement différent, où est-ce que là, il y a un peu plus de choses qui sont possibles, bien, ces limites-là, tranquillement, s'estompent un peu. Puis on est plus libre, en fait.
Se transforme. Oui, ouais. Se transforme, puis... On se rend compte de tout ce qui est possible.
Mais en même temps, ton livre montre un autre pendant de tout ça parce que tu as un autre personnage qui est initié au GN pour la première fois, c'est Chloé.
Oui.
Puis Chloé, elle est vraiment, elle personnalise l'angoisse du jugement des autres.
Oui.
Hein? C'est vraiment sur ce personnage-là que tu as comme concentré ce que tu avais à dire par rapport à cette peur d'être jugé lorsqu'on est...
Oui.
Un adepte de GN. Puis en fait, avec Chloé, ça va plus loin que ça parce qu'avant d'être initiée au GN, elle adore les jeux vidéo, tu sais, elle est comme une geek, là, tu sais.
Ah oui, c'est une geek solide.
Elle est une geek solide à fond la caisse. Puis même avant de faire du GN, elle a déjà fait le choix de cacher cet aspect-là de sa vie personnelle parce qu'elle veut pas, elle a un peu peur du regard des autres, puis elle veut pas être jugée. Puis là, quand elle commence à faire du GN, elle se dit, hey, s'il fallait en plus, tu sais, qu'il sache que je fais du GN. Est-ce que cette peur-là d'être jugée au point d'angoisser, là, est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment chez certains GNistes?
Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais sur un forum qui parle de théorie du GN puis de comment explorer des nouveaux genres et des trucs comme ça. Et il y a quelqu'un qui a demandé s'il était obligé d'utiliser son véritable nom parce que dans son milieu, il ne pouvait pas dire qu'il faisait du GN par peur de représailles.
Épelay! On devine peut-être le milieu professionnel? Il aurait comme perdu sa job?
Oui.
On sait pas. Là.
J'ai pas l'impression que ça serait de perdre la job, mais c'est le fait que dans certains milieux, c'est le genre de loisir qui fait perdre le sérieux.
Oui. Il aurait pas perdu sa job, mais il aurait pas eu la promotion, mettons.
Ça, puis il y aurait eu le jugement constant des autres.
Puis
c'est quelque chose que j'ai vu justement pas plus tard que la semaine dernière, mais l'idée de ce personnage-là puis de cet aspect-là est venue d'un des livres que j'ai lu en prévision de l'écriture de Navamgarde qui s'appelle Leaving Mundania, qui est un documentaire écrit par une journaliste qui explore le jeu Grandeur Nature depuis sa création jusqu'à toutes ses formes différentes à travers le monde. Et il y avait justement un chapitre où c'était un policier qui disait « Je peux pas dire que je fais du GN parce que c'est le genre de choses qui, dans la police, va me hanter pour le reste de ma carrière. »
Ah, incroyable quand même, hein?
Oui, puis à cause de ce petit passage-là dans ce livre-là, je savais qu'un de mes personnages, ça a fini par être Chloé, allait avoir cette pression-là de « il faut que ça se cache
mm-hmm. ».
Donc, c'est vraiment un aspect que je voulais toucher parce que je sais que ça existe.
Puis ça doit être difficile parce que, tu sais, c'est peut-être pas le cas pour tous les GNistes, mais il y en a pour qui c'est un passe-temps qu'ils aiment vraiment beaucoup, c'est une passion, puis on aime ça parler de nos passions, puis de nos passe-temps. Puis là, tu sais, si tu as peur du jugement, tu es comme un peu pris dans cette situation où est-ce que tu aimerais bien ça. Puis c'est le cas de Chloé, entre autres. À un moment donné, elle arrive dans un moment dans le livre où est-ce qu'elle a comme, elle a vraiment envie d'en parler, mais cette peur de se faire juger est encore là. Fait que c'est plate, là. Ça fait du monde qui ont comme, qui peuvent pas exprimer les choses qu'ils ont envie d'exprimer.
Un des retours que j'ai eu par rapport à Navamgarde, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes GNistes qui l'ont découvert, qui l'ont lu, puis qui sont revenus me voir, puis qui m'ont dit « je l'ai fait lire à mes parents
». Pour comme les apprivoiser un peu.
Pour qu'ils comprennent c'est quoi mon loisir.
Ouais.
Donc ça, j'ai eu beaucoup ce genre de retour-là, puis de personnes de mon âge. Pas juste de jeunes de 15-14 ans, je l'ai fait lire à... Non, j'ai des personnes de mon âge, 25, 30, 35 ans, qui disent... Qui me sont revenus, qui m'ont écrit ou qui m'ont parlé de vive voix, qui m'ont dit « J'ai lu ton livre et j'ai décidé de le faire lire à mes parents pour qu'ils comprennent c'est quoi mon loisir et pourquoi je l'aime autant. »
Puis est-ce que t'as eu des...
Moi, c'est un cadeau qu'on fait quand je reçois ça.
Puis est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit un peu quelle a été la réaction des parents après?
Oui, La plus classique, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, maintenant mes parents, ils savent que c'est pas une secte. »
Non!
Donc, c'est cliché. Les gens disent « Ah oh, ouais, les génistes, c'est pas une secte. » Ça se dit plus, mais il y a encore des gens qui le croient secrètement sans le dire, puis ça reste. Puis concrètement, le livre, ce qu'il veut faire, c'est détruire ces stéréotypes-là. C'est pas dire « Hey, le GN, c'est le meilleur loisir du monde pour tout le monde, puis il faut que tout le monde en fasse. » Non. C'est juste de dire « C'est un loisir comme un autre. »
Ouais.
Puis, si ça te plaît pas, c'est pas grave. T'as le droit d'aimer d'autres choses. Mais de le juger sans le connaître, de te moquer sans comprendre, ça, c'est inacceptable. Tu veux parler du GN, sache au moins ce que c'est. Puis le livre, c'est ce que je voulais faire, c'est qu'il permette de découvrir ce que c'est du GN sans avoir à en faire. C'est quelques heures, c'est du mot, c'est des mots, c'est du papier, puis tu découvres le loisir. Puis après ça, là, tu peux avoir une discussion puis décider oui, non, peut-être.
Puis ton livre pose une question magnifique qui, moi, m'a beaucoup touchée. Tu poses la question « Quand perd-on le droit de jouer? » Ça m'a vraiment touchée que tu poses cette question-là parce que c'est une réflexion que je me fais. Tu sais, j'imagine que je ne suis pas la seule. Tu sais, on regarde ce qu'on faisait plus jeune, ce qu'on fait maintenant. Puis, oh, des fois, la vie est sérieuse. Tu sais. Puis,
oui.
On fait juste les trucs sérieux. Puis bon, le travail, les responsabilités et tout. Puis, effectivement, tu sais, qui a dit qu'une fois qu'on devient adulte, on a plus le droit de jouer? Puis le GN en est une façon de jouer.
Oui.
Puis quand tu poses cette question-là dans le livre, tu mènes un peu vers la réflexion en fait, tu ramènes cette question-là qui est la tienne, de dire, OK, mais tu sais, pourquoi est-ce que le GN serait jugé plus sévèrement, en fait? Parce que tu mentionnes, entre autres, le fait de faire les courses avec la poudre de couleur, là, tu sais, puis tu dis, ben ça, tu sais, c'est les color race, là, je sais pas comment on les appelle en français.
Oui, je sais plus.
Mais tu sais, ça aussi, c'est du jeu, là, puis on fait ça pour rigoler, puis tout le monde trouve ça super cool. Puis moi, c'est drôle, je pensais au escape room, les jeux d'évasion, qui sont comme super populaire ces temps-ci. Puis je m'excuse, mais un jeu d'évasion, là, c'est du jeu de rôle. Hein? On ne viendra pas me dire oui. Le contraire. Là. Hein? On n'est pas costumé.
Tu te mets dans la situation. Parce que ouais. les gens ils ont cette image du jeu de rôle. C'est les personnes avec des costumes cheap qui se lancent des sacs de riz en criant « boule de feu, 24 dégâts ».
Ben, c'est ça.
L'image que les gens ouais. ont du GN. Alors ouais. que c'est beaucoup plus que ça. Puis, au moment où le livre est sorti en 2017, on commençait à retomber dans un univers où le jeu de société prend beaucoup de place.
Ouais.
Et les années ont passé de plus en plus le jeu de société. Et avec les escape rooms et tout ça maintenant, on redécouvre le jeu pour adultes, mm-hmm. de plus mm-hmm. en plus. C'est un sujet qui est de plus en plus normal. Il y a eu les jeux vidéo juste avant où ça a été normalisé.
Ouais.
Puis là, c'est les jeux de société. Puis les GN, c'est juste le cousin méconnu.
C'est comme la prochaine étape. Là. Ouais, c'est comme la prochaine étape.
C'est la prochaine étape, mais c'est là.
Mais moi, je ne serais pas surprise que ça devienne comme super branché, peut-être, dans les prochaines
années. Au grand dam de certains.
Est-ce que tu aimerais ça écrire des scénarios de GN? Tu l'as comme un peu fait pour Révélation, mais comme
Oui. Ben, c'est sûr que veux pas écrire en avant-garde, ça a ouvert la porte à hey, si j'avais mon propre GN.
Ouais, hein?
Donc, c'est sûr que des scénarios puis des idées, j'en ai. J'ai écrit des systèmes aussi, des systèmes. On notera bien, j'ai le système d'un avant-garde et j'en ai d'autres. Donc, c'est quelque chose qui est dans mes dossiers parmi tous mes autres dossiers.
Mm-hmm.
On verra ce qui arrivera un jour.
Ben, des projets. Puis, tu disais tantôt, oui. quand je t'ai posé la question là, par rapport à comment tu avais écrit le scénario de Navamgarde pour Révélation, tu me disais entre autres que c'est un espèce de système idéalisé de GN. Quels sont les éléments de Navamgarde qui relèvent de cet idéal-là qu'on ne voit pas nécessairement, disons, dans la réalité, là, c'est quoi? Avec Navamgarde, tu as proposé ce qui, selon toi, serait une amélioration par rapport au GN moyen?
Non, pas tant une amélioration, okay. juste c'est ma vision de ce que serait le GN idéal. Donc, pour moi, un GN, c'est tout le monde à sa place, tout le monde est impliqué dans l'histoire, puis c'est de là qu'est partie l'idée des voix. Donc, dans le GN de Navamgarde, il y a des groupes préétablis, puis en tant que personne qui arrive à Navamgarde, tu finis par te greffer à une voix, puis c'est un des moteurs de l'action. Ça existe. Il y en a plein des GN qui font ce genre de situation-là avec, à travers les races ou à travers les peuples ou à travers les lieux d'origine. Puis c'est ma version idéalisée de la chose où c'est optimisé. Donc, le joueur arrive puis il va se faire embarquer dans une voie contre son gré ou pas. Et ben, cette voie-là va être le moteur de son action. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose que moi, en tant que joueuse, je ne suis pas allée dans un GN où ça existait. Et donc, je l'ai rêvé dans ma garde.
Une espèce de structure qui fait en sorte qu'on est un peu naturellement absorbé par le jeu, puis
ouais.
impliqué, puis on reste pas en mode spectateur, figurant ouais. sur le côté. Là. Remarque que moi, ouais. je pense que la première fois, si j'allais un GN, j'aimerais ça être juste une spectatrice figurante, juste pour un peu pour voir comment ça marche.
Oui, il y en a qui commencent comme ça aussi. J'ai longtemps été dans une équipe logistique pour un GN, puis... On recevait régulièrement des demandes de « Hey, mon enfant vient, est-ce que moi, je peux juste mettre un costume puis regarder? Genre, je veux pas de personnage.
Mm-hmm, mm-hmm.
Je vais tomber si on me tape. Puis, je veux juste voir comment ça se passe. » Puis, il y en a qui revenaient après ça puis qui avaient justement des fiches puis qui développaient des concepts.
Ouais, il y avait juste besoin de s'apprivoiser un petit peu avec tout ça.
Oui, de faire « Est-ce que je suis à ma place ou est-ce que ça a l'air aussi fou que ce l'est dans ma tête?
Mm-hmm. »
Et c'est rarement aussi fou que ce l'est dans leur tête. Parfois, c'est moins amusant que ce qu'ils espéraient. Mm-hmm. Mais c'est rarement aussi fou que ce que c'est dans leur tête.
Ils arrivent à s'identifier quand même
ouais.
avec tout ça. Un élément que tu abordes dans ton livre, puis j'ai bien aimé que tu en parles, c'est la notion de consentement. en GN. Il y a, c'est léger, tu l'abordes en douceur, mais il y a un moment, il y a une interaction entre deux personnages dans le GN qui va chercher un peu de la séduction, puis tout ça. Puis tout ça se passe bien, mais suite à l'interaction entre les deux personnages, de retour dans la vraie vie, le garçon envoie un courriel à la fille pour vérifier, tu sais, est-ce que tu es correct, on est allé un peu sur le terrain de la séduction, comment tu te sens par rapport à ça. Puis oui. Lorsqu'elle a l'occasion, elle lui répond, oui, c'est correct, tu sais, j'étais à l'aise dans le jeu, tout, tu sais, tout va bien, tout s'est bien passé. Donc, oui. Ça, c'est comme un vraiment bel exemple de la manière dont les choses devraient se passer. Oui. J'imagine que des fois, il y a peut-être des situations où est-ce qu'on n'est pas exactement dans ce bel exemple-là. Comment ça se gère, ça, dans un GN? Parce que, tu sais, je peux tout à fait m'imaginer, puis là, encore une fois, corrige-moi, peut-être que j'ai des préjugés, n'hésite pas à me le dire, mais tu sais, je peux tout à fait m'imaginer que certains personnages qui sont comme, ils ont décidé de se donner un rôle un peu de grosse brute, bon, machin, puis après ça, tu as une autre, une personnage féminine qui est un peu plus, bon, dans la je sais pas, la séduction ou la personne qui a besoin d'être protégée, puis là, la grosse brute, bon. Tu sais, je peux comprendre comment on peut glisser sur des pentes glissantes, là, dans le cliché de oui. Bon, hein? Fait que comment qu'on gère ça sur le terrain? Mettons dans le meilleur des mondes, là.
Dans le meilleur des mondes, c'est ce qui est en train d'essayer d'être construit en ce moment même dans les GN. Okay. C'est une problématique qui est de plus en plus révélée mm-hmm. à travers les organisations. De plus en plus d'organisations se dotent d'un code
okay.
par rapport au consentement avec, ça peut être un OK check, puis ça fait partie du GN. De faire en sorte que s'il y a une scène dans laquelle tu es mal à l'aise, tu peux t'en retirer. Donc, ça, c'est ce qui est en train d'être instauré en ce moment même. Parce que, justement, il y a eu des problèmes. Mm-hmm. Veux pas, on se le cachera pas, il y a eu des situations problématiques en GN. Il y en a probablement encore. Il y a des mouvements, ça suit le moi aussi et compagnie. De plus en plus, on a conscience que le GN, c'est un loisir très immersif et qui ouais. dit immersion dit que ça peut déteindre. C'est ce qu'on appelle le bleed. Okay. Donc, ce que ton personnage vit t'affecte toi ou ce que toi, tu vis hors du jeu affecte ta manière de jouer ton personnage. Et de plus en plus, les différentes organisations, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles intègrent des codes puis des barèmes pour dire, ben s'il y a une situation qui est problématique, tu peux la dénoncer, on va t'écouter, on va te croire. S'il y a une situation dans laquelle tu es mal à l'aise, voici les étapes qui vont te permettre de te retirer de la situation et de ne pas briser le plaisir des autres et de te faire sentir en sécurité. Donc, c'est quelque chose qui, en ce moment même, est mis en pratique à travers différentes organisations et je crois que c'est pour le mieux. Parce que c'est ce qui permet de faire évoluer le GN, puis de faire en sorte que le loisir soit de plus en plus accessible à tous et toutes et soit de plus en plus sécuritaire pour mm-hmm. tout le monde.
Parce que c'est sûr que la première situation qui nous vient en tête, c'est des situations où est-ce qu'un scénario implique c'est un jeu, c'est joué, mais implique une forme oui. de violence sexuelle, puis que là, ben, oui. la personne victime va, comme tu dis, avec le bleed, je ne connaissais pas ce oui. terme-là, mais je comprends ce que ça veut dire. Là. Tu sais, malgré tout, on ne peut pas complètement se cacher derrière le fait que c'est un jeu, on peut quand même se sentir oui. affecté, mais je pense que ce code-là qui est mis en place, il peut sans doute être utile dans d'autres circonstances aussi. Tu sais, il peut avoir oui, d'autres interactions malaisantes là, qui...
Oui, ben en fait, le système de base qui est le plus en plus utilisé, c'est vraiment celui du OK check. Donc, ouais. c'est tu lèves le pouce si tu es correct dans la scène et ça peut s'appliquer ouais. à n'importe quelle scène. Ouais. Si tu es dans une scène où il y a un personnage qui se fait engueuler et que tu es mal à l'aise puis que tu veux te retirer, tu fais le signe pour dire que... Ben, tu sors de la scène, puis que la scène, elle va reprendre quand tu vas être parti, et c'est correct. C'est à ça qui sert le système. Donc, à la base, oui, c'est fait pour justement tout ce qui est trigger warning, donc scène de viol et tout ça. De plus en plus, en fait, les GN disent c'est le genre de pratique qui n'est pas accepté dans notre GN. Vous ne pouvez ouais. pas faire ce genre de stimulation-là. Et dans les GN où c'est permis, souvent des GN 18 ans et plus à thématique horreur, ils vont avoir le système qui fait en sorte que, hey, vous êtes prévenus, on est extrême, mais soyez à l'aise que vous serez en sécurité puis que vous pourrez vous retirer si ça devient trop, même si on vous dit que ça va être gros. Donc, c'est vraiment en construction, ça doit faire 1 ou 2 ans que c'est vraiment en train d'exploser ce phénomène-là à travers les GN au Québec spécifiquement, là, à travers le monde aussi, mais au Québec, ça fait 1 ou 2 ans que de plus en plus, il y a des sensibilités par rapport à ces problématiques-là.
Ah ben, ouais, ça ne peut qu'être positif puis rendre le jeu encore plus inclusif, en fait, tu sais.
Oui, c'est vraiment, c'est l'objectif, c'est de voir, on avait une base qui était majoritairement masculine, blanche. De plus en plus, on a des personnes d'autres ethnies, d'autres couleurs, d'autres backgrounds. On a de plus en plus de filles. On a des jeux où il y a des enfants. Ouais. Il y a plein de jeux. Il faut que tout le monde se sente à l'aise puis que tout le monde puisse justement profiter du jeu. Parce que, ultimement, c'est ça le but du GN, c'est que ce soit un jeu. Et donc, il faut qu'il y ait du plaisir.
Ben en tout cas, moi, je vais être honnête avec toi, je te l'ai déjà dit, mais j'ai jamais joué. je suis jamais allée dans un GN, mais c'est pas faute d'intérêt. Là, ça m'intéresse, mais bon, c'est sur ma liste. Je me dis, peut-être un jour, je vais essayer. Mais là, depuis que j'ai lu ton livre, on dirait que ça a monté des étages dans ma liste. Puis là, ça me tente encore plus de l'essayer. Tu m'as dit que c'était un des objectifs que tu avais en l'écrivant. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. Puis je te souhaite et je souhaite à tout le monde qu'avec ce retour des jeux, tu sais, ce retour en popularité des jeux, que le GN soit un peu... la prochaine étape, en fait, là, tu sais, qu'il soit un peu plus démocratisé, puis que, comme tu dis, si c'est de plus en plus diversifié, tu sais, le cliché, le stéréotype du joueur de GN va tranquillement s'estomper, puis on va voir que c'est pour tout le monde. Donc,
puis il va y avoir d'autres types de GN, parce qu'à la base, Vanguard, j'avais pas le choix. Le type de GN de base, le plus populaire, c'est le médiéval fantastique.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai représenté dans Vanguard, mais il y a plein d'autres type de GN. Récemment, avant la pandémie, il y a un studio qui a fait des activités où c'est des jeunes au secondaire pendant leur bal de graduation. C'est ça le GN. C'est un GN d'une soirée. Puis vous avez vos personnages. Puis c'est du GN. Donc, c'est vraiment juste le jeu. On veut jouer. Peu importe si c'est dans un univers médiéval fantastique, si c'est dans du post-apo, si c'est avec des armes en mousse ou des fusils à air comprimés ou des jeux de cartes, parce que ça se joue comme ça aussi avec dans certains jeux, des jeux de cartes pour faire les actions. Il y en a pour tous les goûts. Puis il ne faut pas s'arrêter à « c'est du GN, c'est des personnes louches avec des armes, puis je veux pas ». Non, c'est beaucoup plus que ça.
Bon, on va se le souhaiter, Marie-Jeanne, du jeu pour tout le monde, du jeu pour les grands, du jeu pour les petits. Puis merci beaucoup de contribuer avec Révélation à cette ouverture d'esprit par rapport au jeu pour les adultes qui est vraiment, vraiment important. Puis merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette super belle conversation.
Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé, mais c'est correct. J'espère que ça vous a convaincu.
On aime ça t'entendre parler. On va te réinviter là, quand ton prochain livre va sortir. Hey, d'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé. Vite, là, en comme 30 secondes. Tu travailles sur quelque chose présentement, c'est quoi?
Oui, je travaille sur le tome 3, donc le dernier tome de La Guerre des Tinwe, qui est ma série fantasy, de la vraie fantasy avec de la vraie magie et tout.
Okay.
Donc, le premier tome, c'est mon premier livre publié. Je l'ai republié de manière indépendante. J'ai sorti le deuxième tome l'an passé, en janvier. Puis là, je suis en train d'écrire. Depuis janvier, je ne fais que ça. J'écris le troisième tome qui n'avait encore jamais été écrit. Et là, j'en suis au dernier chapitre. En ce moment.
Yes.
Donc, ouh!
OK, super. Bon, on va te réinviter pour parler de ça quand ça va être prêt.
Oui, ça va me faire plaisir.
OK, ben merci.
Au revoir.
Bye.
Thank you.